Et une nouvelle formule pour la tête au carré à partir d'aujourd'hui. Comme je vous l'annonçais la semaine dernière, notre quiz scientifique disparaît, mais pour laisser place à plus d'infos scientifiques afin d'être quotidiennement au plus près de l'actualité dans tous les domaines de la science. Nous commencerons désormais l'émission autour d'un fait marquant pour vous informer des publications, des recherches ou des événements qui sont au cœur de l'actualité du jour avec un invité à mes côtés à la une de la science. Et ce rendez-vous avec aujourd'hui le planétologue Jean-Pierre Bibring qui sera avec nous dans un instant depuis le Japon pour nous parler du lancement d'une sonde qui va tenter de capturer un morceau d'astéroïde pour le rapporter sur notre planète en 2020. Philippe Hénarejo sera également avec nous pour évoquer cette mission techniquement très périlleuse. Et puis nous vous proposerons également une mini-revue de presse avec les brefs scientifiques du jour qui ont retenu notre attention dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et puis bien sûr, vous retrouvez comme tous les jours le dossier complet de la Tête au Carré qui va se dérouler maintenant en trois parties avec une place encore plus large accordée à vos messages et à vos questions. Et donc aujourd'hui, 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, tour d'horizon, des espoirs, des recherches et des objectifs autour de l'épidémie. Avec mes invités, le PDG de l'INSERM Yves Lévy et Emmanuel Trenado qui est directeur adjoint de AIDS. Dès maintenant, vous nous rejoignez avec vos messages et vos questions, franceinter.fr et les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Voilà donc pour cette nouvelle formule de la Tête au Carré réalisée par Violaine Ballet. Dossier préparé par Lucie Sarfati, la une de la science par François Mercier et Gabriel Bennett.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Yves Lévy, Emmanuel Trenado, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue. Aujourd'hui, donc, journée mondiale de lutte contre le sida. Au moment où on se parle, 30 000 Français ou Françaises ignorent qu'ils ou elles sont contaminés par le virus. Et pire, 30 % des personnes qui découvrent leur séropositivité sont déjà au stade du sida. Comment vous expliquez un tel échec sur le front de la maladie, Yves Lévy?
Je ne pense pas qu'on puisse parler d'échec sur le front de la maladie, car de l'autre côté, nous avons fait des progrès considérables en termes de traitement. Mais par contre, sur un faiblissement et une insuffisance des messages de prévention, ou en tout cas de l'accès à la prévention, c'est effectivement incontestable quand on voit ces chiffres qui restent assez stables.
Emmanuel Trenado.
Oui, ce qui est surprenant, c'est que on n'arrive pas à enregistrer de progrès notables quant à la découverte des 30 000 personnes qui ne connaissent pas leur statut sérologique. Le plan SIDA avait proposé d'intensifier le recours au dépistage et une proposition systématique du dépistage à tous les Français. Ça n'a pas suivi d'effet notable. Donc s'il y avait un message à retenir aujourd'hui, c'est si vous ne vous êtes jamais fait dépister du VIH-SIDA, c'est le moment d'y aller.
Voilà, et plus c'est fait tôt, évidemment, et mieux c'est pour ensuite recevoir des traitements. Heureusement, il y a des raisons d'espérer avec des résultats très encourageants sur le front de la prévention. Yves Lévy, Emmanuel Trenado, on en reparle donc avec vous dans quelques minutes. C'est le dossier de la Tête au Carré avec les témoignages et les questions des auditeurs qui nous rejoignent dès maintenant en direct. À la une de la science aujourd'hui.
On va essayer de se poser, allumer les rétrofusées. Attention, accrochez-vous.
Lancez la procédure de contrôle général. Qu'on soit sûr de pouvoir redécoller de ce caillou.
Voilà un extrait du film Armageddon avec justement dans l'actualité le lancement d'une sonde japonaise Hayabusa 2 qui va aller chercher des morceaux d'astéroïdes pour les rapporter sur Terre. On espère que ça va se passer aussi bien que dans Armageddon. Bonjour Philippe Hénarejos.
Bonjour.
Pour la revue Ciel et Espace. Et on part au Japon justement pour évoquer cette info du jour avec le planétologue Jean-Pierre Bibring. Vous êtes en ligne avec nous. Bonjour.
Absolument, bonjour.
Où vous trouvez
de pouvoir intervenir depuis le Japon et de parler sur vos ondes.
Où vous trouvez-vous exactement, Jean-Pierre Bibring?
Bien, on est tout près de l'endroit d'où la fusée qui aurait dû partir dimanche, on l'espère, va partir cette semaine. Vous savez que les Japonais ont tout un programme spatial avec la capacité non seulement de faire des fusées, mais de les lancer. D'une île qui est au sud du Japon, au sud-ouest du Japon, c'est quasiment le plus au sud. On a toujours intérêt à partir le plus près possible de l'équateur. Donc c'est une île tropicale. Et voilà, il y a toujours une fusée tout près du pas de tir qui attend que la météo soit plus clémente qu'elle ne l'était cet an dernier. Pour l'instant, ça ne passe pas très très bien, mais on espère toujours.
Alors, expliquez-nous cette mission, parce qu'on a beaucoup parlé de Philae et de Chury avec vous il y a quelques jours. Maintenant, on a affaire à Hayabusa 2, qui donc va essayer de rapporter des morceaux d'astéroïdes, c'est ça?
Oui, écoutez, c'est toujours un peu la même idée que les gens se posent actuellement, c'est d'avoir accès à un matériau qui soit le plus primitif possible pour comprendre un peu le mystère de nos origines, puisqu'on est convaincu que c'est très tôt dans l'histoire du système solaire que s'est modelé les chemins d'évolution qui ont fait que la Terre est devenue la Terre et que la vie peut-être a émergé. Et cette fois-ci, ce dont il s'agit, c'est non pas explorer une comète, mais un astéroïde qui est un petit corps à peu près aussi petit, à vrai dire celui-là, il est même encore plus petit que la comète Churyumov-Gerasimenko. Mais il est très particulier en ce sens où, par télescope, on sait qu'il est riche de carbone, de composés volatiles, d'eau peut-être. Donc il est vraiment très très petit et très ancien. Et probablement il n'a pas évolué non plus depuis que le système solaire s'est formé. Et on espère, en ramenant un petit peu de ce matériau-là, d'abord en l'analysant sur place, puis en en ramenant, avoir une autre vision de ce à partir de quoi le système solaire s'est formé. Avec toujours cette idée de comprendre pourquoi les destins planétaires ont été tellement différents.
Philippe Hénarajos.
Oui, bonjour Jean-Pierre Vibring, j'ai une petite question. Il y a déjà eu une mission à Hayabusa qui est allée voir un astéroïde qui s'appelle Itokawa et qui a ramené déjà des échantillons, même si la mission a été un peu périlleuse. Quelle est la différence entre cet astéroïde-là qu'on va aller voir, 1999 JU3, si mes informations sont exactes?
Absolument, oui, oui.
Quelle est la différence entre cet astéroïde-là et le précédent, puisqu'on a déjà eu des retours d'échantillons?
Alors, il y a deux grandes différences. Il y a une différence dans l'astéroïde, il y a une différence dans ce qui va être fait à propos de cet astéroïde. La différence dans l'astéroïde, les astéroïdes ne sont pas des corps qui sont homogènes. Il y a une très grande variété d'astéroïdes, essentiellement parce qu'ils reflètent la variété des objets du système solaire eux-mêmes, quelque part. Et l'astéroïde qui était la source de la mission précédente, c'est un astéroïde relativement évolué qui avait perdu, pour l'essentiel, la trace de ce qu'il était quand il s'était formé. La première fois, se poser sur un astéroïde, donc on est à peu près convaincu qu'il est resté tel que, qu'il a préservé toutes ses conditions d'origine. C'est pour ça qu'on trouve encore des composés qui disparaissent dès qu'on chauffe un peu. On les voit toujours, ça veut dire que cet astéroïde a très peu chauffé. Et c'est ça qui est extrêmement différent, c'est que pour la première fois, on va échantillonner un objet extrêmement ancien avec l'idée de ramener sur Terre de ce matériau-là et l'analyser. Et la deuxième chose très importante, c'est que non seulement il va y avoir un retour d'échantillons, où ça ne va pas être des grosses quantités, c'est des grammes, mais c'est déjà remarquable, puisque grain par grain, on pourra les analyser, mais on va en plus, sur place, pouvoir larguer un petit module qui a été fait entre la France et l'Allemagne, un peu équivalent au filaire de Rosetta, sauf qu'il est beaucoup plus petit, celui-ci. Et à la bord de ce véhicule, il y a des instruments que nous avons fabriqués qui nous permettent d'avoir accès directement à la composition de tout ce qui se passe à la surface de l'astéroïde, c'est-à-dire les minéraux, les glaces, les composés organiques. Ce qui veut dire que même si le retour d'échantillons n'était pas aussi optimal qu'on voudrait, parce que c'est très risqué, on aura déjà la capacité d'analyser sur place ce matériau. Et ça, c'est vraiment une très grande première. C'est la première fois qu'on va être capable de faire ça sur un astéroïde, un petit corps, le petit corps du Petit Prince.
Alors justement, Jean-Pierre Bibring, ça reste une mission quand même techniquement très compliquée. Hein. Racontez-nous comment ça va se passer en quelques mots pour avoir ces échantillons.
C'est extrêmement compliqué, si vous voulez. D'une part, pour y aller déjà, c'est compliqué. Il y a une orbite d'abord très longue dans le système solaire avant de ricocher, repartir dans un an vers ces astéroïdes. Ensuite, ça sera à partir d'aujourd'hui 4 ans, au lieu des 10 d'ailleurs de Rosetta, en 4 ans on va être sur un astéroïde parce qu'on a choisi un astéroïde qui passe relativement près de la Terre et c'est pour ça que c'est plus rapide. Et une fois qu'on sera là-bas en 2018, on va à la fois analyser sur place, on va larguer les modules et la sonde va se rapprocher, va envoyer comme des petits boulets à la surface pour faire des cratères, pour éjecter de la poussière du sol et à ce moment-là, avec une sorte de petit aspirateur, la sonde va aller prélever ces échantillons-là, les mettre dans une capsule et ensuite orienter la capsule vers la Terre et la Terre va recevoir cette capsule 3 années plus tard. Et en principe, si tout va bien, on va récupérer cette capsule dans un désert qui sera vraisemblablement le même que pour Hayabusa, c'est-à-dire un désert australien. Et on est tous très avides de ce succès. Effectivement, c'est très périlleux parce que ça suppose beaucoup de rendez-vous, ça suppose de se poser, de repartir et ensuite de faire une rentrée atmosphérique. C'est compliqué, mais ça a marché effectivement une fois et les techniques sont encore améliorées, sont perfectionnées, donc on a toutes les raisons de penser que ça peut être un très gros succès. Et donc plusieurs étapes, le lancement en principe cette semaine, 2018 l'arrivée sur place, les analyses et le prélèvement d'échantillons, et 2021 le retour sur Terre et le début des analyses en laboratoire.
Voilà Philippe Hénarajos, avec toujours des exploits hein, qui se succèdent dans le domaine du spatial.
Juste une dernière question, vous êtes à bord de Rosetta et de Philae, vous êtes à bord de Hayabusa 2, avec ces résultats, vous allez arriver à dépeindre un petit peu la genèse de l'eau sur Terre peut-être ?
Écoutez, vous savez, c'est toujours pareil, tant qu'on n'a pas les résultats, on ne vend pas la peau de l'ours, comme on dit. Mais en tout cas, notre Nos objectifs, c'est d'essayer d'avoir accès aux constituants de base qui ont servi ensuite à construire tout ce qu'il y a d'important dans le système solaire, c'est-à-dire les planètes telles qu'elles sont, et en particulier, évidemment, le vivant sur Terre, capable d'adaptation ensuite. Donc, bien sûr, on arrive maintenant à une phase extraordinaire de l'exploration spatiale, c'est que l'homme s'est doté des moyens d'aller sur place, de vérifier sur place, de mesurer sur place, et même maintenant, avec l'Iliabusa, de revenir avec des échantillons pour les analyser en laboratoire. Donc, pour les gens de ma génération, mais surtout des générations qui arrivent, c'est absolument fabuleux, parce que on a la possibilité d'aller des étapes nettement supérieures dans la compréhension de ce qui est à l'origine de la diversité des objets du système solaire et de se poser vraiment avec une véritable approche scientifique et qui sont tout à fait fondamentales que les gens se posent depuis très longtemps. Voilà, d'où sommes-nous venus? Et l'autre question, bien sûr, fondamentale, c'est de se dire, une fois qu'on aura compris ces processus-là, est-ce que ces processus sont propres à notre système ou est-ce que partout dans l'univers, il y a eu la même chose? Et cette question de l'unicité de la Terre, savoir s'il y a de la vie ailleurs, qu'on est seul dans l'univers. Voilà, pour la première fois, on va pouvoir se les poser d'une manière réellement scientifique, beaucoup plus élaborée. Et c'est extraordinairement excitant pour toutes ces générations qui arrivent.
Fascinant, Yves Lévy, quand même, ce qu'on entend là.
C'est absolument extraordinaire.
On vit des choses incroyables ces derniers temps.
Absolument, parce que les avancées technologiques, quand on le voit dans ce domaine du spatial entre Philea et cette aventure qui nous pose des questions fondamentales sur d'où nous venons, et quand on voit aussi dans la biologie, que je connais mieux, les avancées aujourd'hui extraordinaires, je pense qu'on peut être quand même, on peut espérer de la recherche. Et on peut espérer de passer des sauts et des gaps à chaque fois.
Merci beaucoup Jean-Pierre Bibring, en direct du Japon, de l'île de Tanegashima.
Merci à vous, encore une fois, bravo de permettre de dialoguer avec vos auditeurs, c'est merveilleux. Merci énormément.
Et on se retrouvera le 29 décembre sur France Inter pour une rétrospective scientifique de 2014 pour parler bien sûr de Philae et Rosetta. Merci également à vous, Philippe
encore,
et Narajos. À très bientôt. Et puis en bref, dans l'actualité... Toujours dans le domaine spatial, une réunion de première importance demain à Luxembourg pour l'Europe de l'espace. C'est une décision historique pour la fusée Ariane devant la concurrence internationale et les stratégies de réduction des coûts. Les Européens veulent repenser le lanceur Ariane 5, toujours très fiable mais jugé trop cher. L'ESA et les ministres en charge de l'espace et ses 20 pays membres devraient donner le départ au projet Ariane 6. Donc demain, après le compromis trouvé entre la France et l'Allemagne, les deux principaux contributeurs du projet. Premier tir prévu pour 2020 là aussi. Et se passe toujours cette nuit dans notre ciel, la Lune passera près de la planète Uranus, 7e planète du système solaire et distante de la Terre d'environ 3 millions de kilomètres. Entre 23h ce soir et 3h du matin, ce sera une belle occasion, on l'espère, de pouvoir repérer cet astre de couleur turquoise et de l'observer. Philippe, s'il n'y a pas trop de nuages dans le ciel quand même.
Uranus, c'est 3 milliards de kilomètres
3 milliards,
de la Terre. C'est tout petit. La Lune peut effectivement guider pour savoir vers où il faut regarder, mais la différence d'éclat entre les deux est énorme, donc vaut mieux avoir un télescope quand même pour voir Uranus.
Et puis enfin, sur la planète chat en France. Le classement des races préférées fait la part belle aux chats en vogue aux États-Unis. L'imposant Maine Coon, un chat qui peut parfois atteindre 15 kilos, conforte sa place de numéro 1 chez les Français. Mais en dehors de ce classement réalisé d'après le nombre de pédigrés inscrits au fameux LOF, le livre officiel des origines félines, le félin le plus populaire et le plus répandu reste bien le célèbre chat de gouttière. Allez, 1er décembre, journée mondiale contre le sida, c'est le dossier de la tête au carré dans un instant.
Thank you.
Les cigognes nénuphars, Forever Pavot à l'instant sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Aujourd'hui donc 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. En 2013, 35 millions de personnes vivaient avec le VIH qui a déjà fait 39 millions de morts depuis son apparition. Sommes-nous sur le point de vaincre cette épidémie ou au contraire faut-il rester très prudent face à ce virus? On en parle avec vous Yves Lévy et Emmanuel Trenado. Yves Lévy, donc vous êtes depuis le mois de juin le nouveau président directeur général de l'INSERM, mais vous êtes toujours professeur d'immunologie à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Vous parvenez à mener de front toutes vos activités?
Écoutez, mon activité principale, c'est d'être président de l'INSERM, ce qui est déjà une tâche importante. Mais je continue et j'ai tenu à continuer à garder ma consultation et avoir un contact avec les chercheurs et les malades. Oui. Je crois que c'est ce qui donne une légitimité, qui permet de penser concrètement.
Donc c'est important pour vous de garder le pied à la fois dans la recherche et dans l'aspect clinique, hein, évidemment, de vos travaux. Oui. Et qui sont évidemment complémentaires avec ce poste donc de président et directeur général de l'INSERM. Emmanuel Trenado, vous êtes vous directeur adjoint de AIDS, en charge des programmes internationaux, également secrétaire permanent de Coalition Plus. C'est la Fédération internationale d'associations communautaires, hein, de lutte contre le sida. AIDS d'ailleurs qui publie « Sida, 30 ans d'idées reçues », un ouvrage qu'on signale dès maintenant, écrit par Bruno Spire et Graziella Caetano. Publié aux éditions du Cavalier Bleu. L'état des lieux, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui justement ce 1er décembre 2014 sur l'épidémie?
En termes d'informations scientifiques, on a toutes les confirmations et tous les outils aujourd'hui qui nous permettraient de réduire fortement le nombre de nouvelles contaminations. Et on est en fait à un moment où les pouvoirs publics, les autorités de santé sont dans le processus d'essayer de mettre en place et d'être un peu novateur. On pourrait faire mieux, mais ça demande des politiques rénovées et un peu d'innovation.
Yves Lévy, ONU-SIDA affirme que la fin de l'épidémie pourrait être envisagée pour 2030. Est-ce que cet objectif vous paraît raisonnable aujourd'hui?
Écoutez, c'est un objectif, vous savez, les scientifiques et les pouvoirs publics ont besoin de se fixer des objectifs. D'ailleurs, ça mobilise aussi des financements, ça mobilise les politiques nationales et internationales. L'idée, c'est de dire quoi? Qu'il faut augmenter le dépistage pour que tous ceux qui sont séropositifs puissent avoir accès à un traitement et que si ce traitement est efficace en contrôlant ce qu'on appelle la charge virale chez un individu traité, on diminue le risque de transmission du virus. Donc quand on fait ces modèles-là, on voit que si on traite 90% des personnes infectées et qu'on obtient une très forte efficacité, on a un modèle qui montre qu'on n'arrête pas le VIH et l'épidémie. C'est l'épidémie de sida, c'est-à-dire l'évolution de ceux qui sont infectés aujourd'hui vers la maladie sida et donc avec le décès. Mais il restera toujours du VIH et ça, pour encore des décennies et des décennies, on vivra avec le VIH. Donc il faut rester prudent et il faut multiplier évidemment les messages de prévention. Mais c'est ça l'objectif. Si l'on ne fait rien par contre, si l'on reste comme aujourd'hui, avec quand même des progrès considérables, diminution du nombre des infections dans beaucoup de pays et avec une augmentation du nombre de personnes traitées. Mais même si l'on restait à ce niveau-là, les courbes montrent par contre que l'épidémie reprendrait progressivement entre 2020 et 2030. Donc on ne peut pas simplement se contenter de l'augmentation du nombre de personnes traitées et de la diminution des chiffres apparents dans certaines régions du monde.
Emmanuel Trenado, qu'est-ce qui manque alors justement aujourd'hui pour parvenir à cet objectif ONU-SIDA?
Alors pour les pays du Sud, il manque une mobilisation internationale et la mise à disposition de ressources suffisantes. Je rappelle ici que l'Europe traîne des pieds pour mettre en place la taxe sur les transactions financières et cette taxe permettrait, si une partie était consacrée à la lutte contre les grandes pandémies, permettrait d'apporter aux pays qui doivent gérer des épidémies importantes, les fonds nécessaires pour amplifier leur action. Donc on est au sud sur une crise des financements, hein, et au nord on est sur un manque d'innovation et la routine. On mène les politiques de lutte contre le sida comme on les menait dans les années 90 et il faudrait se réveiller.
Bon, Yves Lévy, vous faites le même constat aussi sévère?
Non, enfin, je ne serai pas sévère, mais je comprends parfaitement que si l'on voit les chiffres, on ne peut pas être satisfait, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, même la couverture par les antiviraux de la population dans le monde qui, en, qui, qui le nécessiterait.
C'est très inégalitaire.
C'est très inégalitaire d'abord, et c'est aux alentours de 40%. Donc vous voyez, quand on a un objectif de monter à 90% de personnes traitées, on est loin. Deuxièmement, le nombre de personnes dans le monde, quand on regarde globalement l'épidémie, on va sûrement parler de la France, qui connaissent leur statut, qui connaissent leur séropositivité, c'est moins de 50%, c'est à peu près 50%. Donc vous voyez qu'on est encore loin d'avoir dépisté. Or, dans cette maladie, on a mis en évidence par des essais très clairement que le traitement antiviral, ça n'est pas simplement quelque chose qui nous protège d'évoluer vers le sida, mais que le traitement est un des moyens absolument efficaces de diminuer le risque de transmission du virus. Car on diminue encore une fois cette charge virale au niveau mondial. Oui. Et donc on est loin des chiffres que l'on veut atteindre entre 2020 et 2030.
Alors justement à ce sujet-là, une auditrice qui nous envoie un message d'Angleterre et qu'on salue, nous dit ceci. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a autant de porteurs de virus qui ne le savent pas? On parlait donc de 30 000 personnes tout à l'heure. Est-ce que des tests sont faits à l'insu de ces personnes? C'est vrai ça? Comment on a cette info, Emmanuel
Solando? En fait, c'est un travail... des équipes INSERM de modélisation et d'estimation. En fait, on estime et de manière assez fiable que ce sont 30 000 personnes qui ne connaissent pas leur statut sérologique. Mmh. Alors, les méthodes utilisées pour modéliser ça...
Ce sont des algorithmes mathématiques, voilà, tout simplement.
Pour, oui, mais en fait, on peut expliquer simplement. Dans notre pays, il y a à peu près 5,5 millions de tests réalisés par an dans les centres. Et donc, on a cette collection de tests et on voit le nombre de personnes qui sont positives avec ces tests. Et on étend ces chiffres en voyant l'âge de la population qui s'est fait dépister à l'ensemble de la population nationale. Et on a une estimation du nombre de personnes qui devraient être positives si elles avaient fait leur test. Ouais. Donc, c'est effectivement des modèles. C'est une estimation. Mais il est vraisemblable que le nombre de personnes qui ne connaissent pas leur séropositivité est important. Mais si on voit l'hépatite C, par exemple, qui est une autre infection par un virus important, 200 000 personnes aujourd'hui en France qui sont sûrement séropositives pour l'hépatite C, et 90 000 d'entre elles ne savent pas qu'elles sont séropositives pour l'hépatite C. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour le sida, de la transmission, et d'autres infections aussi suivent cette même règle.
Toujours dans les chiffres, en France, chaque année, entre 6 000 et 8 000 personnes, c'est ça, découvrent qu'elles sont séropositives.
On estime l'incidence, c'est-à-dire Alors c'est un peu compliqué, mais l'incidence, c'est le nombre de nouvelles infections chaque année. Et on estime en France qu'il y a entre 6 et 7 000 nouvelles infections chaque année.
Et un chiffre qui reste stable depuis 2003, c'est ça?
Absolument.
Ça ne bouge pas.
C'est absolument étonnant que malgré les manifestations et les messages, et donc on va reparler de la prévention, il y a effectivement un nombre tout à fait stable de nouvelles infections dans notre pays.
Ouais. Ça veut dire quoi, Emmanuel Trenado, quant aux campagnes de sensibilisation qui sont menées par les pouvoirs publics? Ça ne marche pas?
En fait, après, il faut regarder dans le détail qui sont ces personnes qui s'infectent. Et en fait, on remarque qu'il y a en fait, des groupes qui sont plus exposés au risque d'infection, des groupes de la population. Alors, ils sont plus exposés de par leur pratique sexuelle et aussi de par la prévalence du VIH dans cette population-là. Donc, les grands groupes clés en France sont les homosexuels, les usagers de drogue par voie intraveineuse, les travailleuses du sexe et les migrants. Donc, dans tous les groupes, sauf les homosexuels, le nombre de nouvelles infections diminue. Oui. Donc il y a quand même des progrès notés chez les migrants, chez les travailleurs du sexe, chez les usagers de drogue, mais chez les homosexuels, l'incidence continue légèrement à augmenter.
Et qu'est-ce qu'on en pense chez AIDS? C'est pas un peu désespérant là aussi, sur tout le travail de terrain que vous menez en permanence et sur l'information, parce que c'est aussi une communauté qui a l'habitude d'être bien informée quand même, non?
Oui, alors nous, on a réagi, on a mis en place depuis 2011, en fait, une nouvelle initiative soutenue par les pouvoirs publics qui s'appelle TROD, test rapide d'orientation au diagnostic, en fait, et l'association amène le dépistage auprès des communautés de migrants et d'homosexuels. Donc on encourage les personnes à se faire dépister régulièrement. Ouais. Parce qu'une des réponses à l'augmentation des nouvelles infections, c'est que...
C'est le retard pris justement sur l'annonce en fait.
Donc une fois que les gens savent qu'ils sont séropositifs, on leur propose aujourd'hui en France un traitement, quel que soit le Toutes ces les quatre.
On en parlera avec vous tout à l'heure. Yves Lévy, un mail de Larry. Pourquoi est-ce qu'on parle autant de population à risque? Est-ce que c'est pour tranquilliser ceux qui s'estiment ne pas en faire partie?
Non, c'est qu'on pointe des populations chez lesquelles, comme vient de le dire Emmanuel très clairement, il y a une plus forte prévalence du virus, c'est-à-dire que le virus est là plus fréquemment et que donc ces personnes aussi peuvent avoir des comportements à risque. Mais il ne faut pas oublier que le plan national sur le sida a très bien montré et a indiqué qu'il fallait généraliser le dépistage de la population de 15 ans à 70 ans. On devait connaître son statut, le faire au moins une fois. Et après que l'on cible des messages, comme toujours, dans des populations qui sont plus à risque, c'est absolument normal.
Allez, on se retrouve dans un instant. Les messages sur franceinter.fr.
So still, shh, shh, you're all alone, shh, shh, and so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above, simple is caving in. Wow, you never been so nuts about. You wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, starts another big riot.
It's House of Quiet avec Björk à l'instant sur France Inter. Dans la tête au carré aujourd'hui, nous parlons de la journée mondiale de lutte contre le sida avec le PDG de l'INSERM, Yves Lévy, et Emmanuel Trenado, qui est directeur adjoint de AIDS. Et vos messages nombreux qui arrivent sur le site de l'émission, également les messages courts sur le mot-clé « l'attaque ». Félix demande s'il est possible de détecter la présence du virus lors d'une simple prise de sang ou lors d'un don de sang. Yves Lévy.
Oui, bien sûr, puisque c'est la base du dépistage. Il y a deux tests. Il y a celui qui montre qu'on a été en contact avec le virus et que C'est ce qu'on appelle la séropositivité. On détecte des anticorps contre le virus et on peut aussi, évidemment, doser le virus qui se multiplie dans les organes, dans le sang et que l'on dose très précisément.
D'autres questions, Jean-Paul nous dit ceci. Est-ce qu'on a des statistiques pour comparer l'impact des épidémies virales ou bactériennes aujourd'hui par rapport au passé ? Intuitivement, dit Jean-Paul, j'ai l'impression que nous vivons plutôt dans un monde particulièrement concerné par ces épidémies.
Non, il y a toujours eu des épidémies qui ont façonné l'histoire et dont on connaît les grands épisodes, que ce soit la peste au XVIIIe siècle ou que ce soit même plus proche de nous ce siècle, la grippe dans les années 1910-1920 et puis plus récemment le SRAS. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils pour suivre les épidémies, on a des réseaux de surveillance, on a un recueil beaucoup plus rapide et on a une interaction internationale. Et on va peut-être parler d'Ebola où on dira un mot et on voit bien que la mobilisation... Donc on a l'impression d'être plus concerné ou touché par les épidémies, non, mais on est sûrement aujourd'hui beaucoup plus prêt à les dépister, les détecter et les suivre.
Emmanuel Trenado, comment on repense la prévention aujourd'hui en 2014 ? On a le sentiment qu'il y a beaucoup de choses là qui se passent en ce moment, qu'on bascule dans une autre vision, en tout cas dans une autre approche de la prévention. On ne peut plus rester que sur le préservatif aujourd'hui. Il y a d'autres outils à disposition.
Voilà, donc les grandes nouvelles depuis 2010, ça a été la preuve qu'une personne traitée ne transmettait pas ou les probabilités de transmettre étaient vraiment très très faibles. Et la deuxième grande nouvelle des années 2010, ça a été la démonstration qu'un traitement antirétroviral pris par une personne séronégative la protégeait aussi de l'infection à VIH. Ce qui a amené les autorités de santé américaines à autoriser la commercialisation du premier médicament préventif du sida.
C'est le cas depuis 2 ans à peu près.
Voilà, 2012.
Et donc, juillet 2012. Et donc, Yves Lévy, ce n'est pas le cas en France encore hein ?
Non, ce n'est pas le cas en France parce qu'il fallait confirmer ces données. Et puis aussi, ça pose un certain nombre de questions sur la tolérance de ces médicaments long cours. L'essai dont parle Emmanuel, ce sont des personnes qui le prenaient tous les jours, ce médicament, en dehors ou pas des périodes éventuellement de rapports sexuels. Et donc, les grandes avancées de l'année 2014, c'est l'essai fait par la France, par l'ANRS, qui est l'essai que l'on dit hyper-gay, où on a transposé cette prévention avant exposition au moment des rapports sexuels ou dans une période particulière. Et donc, là, les résultats qui ont été annoncés au mois d'octobre de cet essai hyper-gay montrent que quand on prend des médicaments, je dirais, entre guillemets, à la demande, au moment qui entoure le moment du rapport sexuel, eh bien, on a un taux de protection significatif. Ouais. Et donc, on voit bien qu'on avance dans l'utilisation plutôt adaptée qu'une utilisation continue pendant toute la vie sexuelle de médicaments qui peuvent avoir eux-mêmes leur toxicité.
Emmanuel Trenado, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut dire qu'avoir des relations sexuelles sans préservatif n'équivaut pas nécessairement à prendre un risque pour le VIH ? Est-ce que c'est un message qu'on peut entendre, ça, aujourd'hui ?
Non, en fait, le message qu'il faut entendre, c'est qu'il y a d'autres outils de prévention que le préservatif et que le préservatif reste l'outil principal de prévention et qu'il convient à la majorité des personnes, mais qu'il y a certaines personnes qui ont des difficultés à systématiquement utiliser le préservatif. Donc il y a des groupes dans les populations exposées qui sont en situation de fragilité avec l'utilisation constante des préservatifs. Et donc pour ces personnes-là, d'autres options sont aujourd'hui envisageables. L'une, c'est le traitement préventif. Yves Lévy et moi, on était à une conférence en Afrique du Sud sur la prévention, mais il y a d'autres outils qui sont en développement, comme les anneaux vaginaux, les gels rectaux et les traitements préventifs par injection trimestrielle.
Avec des nanoparticules, hein,
voilà,
en l'occurrence. Mais ça, on n'y est pas encore.
Les essais sont en cours aux États-Unis. Oui. Mais c'est pour vous dire que le champ de la prévention est en train de mettre au point des technologies qui permettront aux personnes qui n'arrivent pas à utiliser tout le temps le préservatif d'être quand même protégées par le VIH.
Sauf que, évidemment, Yves Lévy, il y a le temps de la recherche qui demande des garanties avant
Absolument.
De pouvoir distribuer ces médicaments à tout le monde.
Et puis même, quand on aura ces médicaments, il faut penser à la prévention comme, je dirais, une boîte à outils de la prévention. C'est-à-dire, le préservatif reste central. Et même dans ces progrès dont on parle, les taux de réduction, de diminution de ces risques, c'est de 80-85%. Et il faut bien se rendre compte que ça, c'est le taux statistique global dans une étude. Mais il reste 15% ou 20% dans ces différentes études de personnes qui peuvent, malgré cette stratégie, parce qu'elle est
passer
pas bien
entre
prise,
les mailles du filet, hein.
passer entre les mailles. Donc, il faut bien voir qu'il faut penser à la prévention comme un certain nombre d'attitudes et d'outils, et que c'est l'ensemble qui permettra éventuellement d'avoir une diminution du nombre d'infectés et casser l'épidémie.
Ouais. Alors justement, au sujet de ce Truvada, donc ce médicament qui est disponible aux États-Unis, il a fait débat en France. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas? Pourquoi est-ce qu'on ne dispose pas de cette molécule actuellement?
Les raisons sont complexes. La première raison, c'est que le laboratoire n'a pas demandé la modification de l'AMM au niveau européen, donc c'est difficile. Et l'association AN, en tant qu'association de malades, a demandé une RTU de Truvada, qui est une recommandation temporaire d'utilisation.
Comme on l'a fait pour le baclofène, par exemple.
Exactement.
Hein, c'est ça.
On a demandé il y a 2 ans, et on n'a toujours pas de réponse de l'ANSM, l'autorité de santé. Donc,
fait 2 ans que vous demandez.
Oui. Ça fait 2 ans qu'on demande la mise à disposition pour certains et certaines de la PrEP. D'ailleurs, à cet égard, on a mené une étude auprès de 3000 personnes pour mesurer l'état des connaissances sur la PrEP et le désir d'utiliser la PrEP. Et on s'aperçoit que les personnes, une fois qu'elles sont au courant de la PrEP, sont plutôt intéressées par avoir cette option de prévention.
Yves Lévy ?
Oui, donc là, on parle de ce médicament qui est disponible en France pour le traitement, mais que l'on donnerait en prévention avant de s'exposer.
Exactement.
Et donc, comme on le disait tout à l'heure, les études aux États-Unis ont montré que c'était efficace, mais donné tous les jours. L'étude Hypergay montre que quand c'est donné à la demande, et les résultats définitifs de cette étude ou avancés seront disponibles entre février et mars 2015.
Oui.
Et je pense qu'à ce moment-là, et c'est l'intérêt de la recherche, il n'est pas impossible que cette étude amène à reconsidérer les recommandations et la mise à disposition en prophylaxie de ce médicament. Donc c'est ce qu'on espère. Et là encore, c'est la recherche qui a fait faire un point et un pas supplémentaire pour mieux appréhender une telle technique compliquée et éventuellement permettre sa mise à disposition avec un accompagnement, des informations et le fait de bien comprendre que ça ne sera pas forcément efficace temps.
La France reste en retard. La France a été leader dans la lutte contre le sida. Il y a aujourd'hui plus de 10 000 personnes qui utilisent la PrEP aux États-Unis et ce médicament est remboursé par les assurances privées dans la plupart des cas.
Oui.
Et en France, on est loin de l'accès à la PrEP.
Donc ça vous agace, hein,
concrètement. On a pris du retard. On fait perdre des chances aux personnes les plus exposées aujourd'hui.
Des questions des auditeurs. Jacques nous dit ceci. Les nouveaux tests de dépistage ne modifient-ils pas fortement l'annonce toujours difficile d'une séropositivité? Alors peut-être qu'il faut préciser les choses. Dans certains cas, peut-être que cette personne fait allusion à l'autotest qui va arriver bientôt. Yves Lévy, vous nous en expliquez le principe rapidement.
Oui, il y a les tests classiques, la prise de sang et vérifier ensuite de la séropositivité. Et puis, il y a les tests rapides d'orientation diagnostique qui peuvent avoir donné un résultat en 30 minutes avec une goutte de sang. Et ceci se fait plutôt dans le milieu communautaire avec les associations qui ont joué un rôle très important parce que ça permet à l'accès à des personnes qui ne vont pas dans les centres d'avoir accès. Et puis en discussion et peut-être arrivé en début 2015, des autotests avec une goutte de sang ou de salive. Et là, on est seul.
Alors là, on est seul. Alors voilà. Ça, il y a un vrai problème éthique pour le coup. Hein.
Absolument. Donc là, toute la question d'abord, c'est la fiabilité de ces tests, leur reproductibilité, et donc ça c'est en cours d'étude et de finalisation, et aussi l'accompagnement. Il n'est pas possible, même si ces tests étaient disponibles en pharmacie, ce qui sera vraisemblablement le cas en 2015, que ce soit sans un accompagnement, au moins téléphonique, au moins dans un centre de référence, car évidemment, il faut prendre en compte pas le diagnostic uniquement, mais l'entourage, tout ce qui entoure un diagnostic de ce type.
Donc ce n'est pas tout à fait un autotest, enfin, on peut le faire soi-même, mais bien accompagné.
On le fait soi-même en tant que technique,
mais il faut être accompagné.
Comme beaucoup d'autres tests de dépistage, il faut qu'il soit accompagné, expliqué et tout de suite enchaîné sur une prise en charge. Sinon, ce serait un échec.
Trenado, le dépistage rapide, évidemment, vous accompagnez les personnes.
Nous, il y a un conseil avant le test et après le test, c'est un accompagnement. On a été consulté sur la mise sur le marché des autotests. Et c'est vrai qu'on était réticents dans les années 2000, mais là, on se rend compte aujourd'hui qu'il faut multiplier les offres de dépistage. Parce que, comme vous le disiez en début d'émission, aujourd'hui, on n'arrive pas à faire baisser le nombre de personnes qui ne connaissent pas leur statut sérologique.
Ouais.
Et donc, c'est en multipliant les options qu'on va réussir à faire entrer les gens dans le soin parce qu'il y a un bénéfice pour les personnes à être traitées tôt et pour la communauté.
Allez, on va se retrouver dans un instant. On parlera de recherche, Yves Lévy, parce qu'il y a vraiment des choses très, très intéressantes dans ce domaine. Et vous nous expliquerez pourquoi, par exemple, chez certaines personnes qui sont pourtant séropositives, eh bien, on ne développe pas de signes cliniques de présence du virus. Ça, c'est une étude qui est arrivée très récemment. Les messages se poursuivent sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. It's a dark road on the other side. Don't you see I'm alone without you? All the walls started coming down. Can't you see I'm alone without you? Yeah, spend an eternity missing we used to be. I hope you remember me at night. La voix de Selassou à l'instant sur France Inter. Allez, dernière partie de notre dossier pour cette journée mondiale de lutte contre le sida. Allez, vous signalez également donc ce livre aux éditions du Cavalier Bleu, Sida, 30 ans d'idées reçues, Bruno Spire, Graziella Cata et Neo. Donc ce livre vient de paraître. Un petit mot peut-être Emmanuel Trenado pour,
oui, c'est
pour louer le livre de vos camarades.
Oui, c'est un livre dont les ventes iront au bénéfice de l'association AIDS, ce qui nous permettra d'amplifier nos actions de dépistage. Et ça fait le point sur tout ce qu'on peut imaginer sur le sida et ça explique clairement. Ça lutte clairement contre les idées reçues, ouais. Les fausses.
Et puis également, signalons, comme chaque année, le guide gratuit d'information sur le VIH et les hépatites Tétu+, hein, qui paraît donc dans Tétu, avec 112 pages de conseils, connaître ses droits, bien vivre avec le VIH, le difficile accès aux soins, la nutrition, la prévention, voilà, tout ça est abordé. Toutes les questions qu'on a évoquées d'ailleurs ensemble est présent dans ce guide. Yves Lévy, sur le plan de la recherche, évidemment, là on est totalement aussi dans vos travaux. Qu'est-ce qu'il faut espérer alors le vaccin, par exemple, on en est oui. Où là aujourd'hui?
Écoutez, le vaccin, je suis très impressionné par l'avancée de beaucoup d'équipes au niveau mondial, mais aussi en France dans les 4-5 dernières années. Vous savez qu'en 2009, il a été annoncé, même à Paris, à la conférence de Paris, un résultat intéressant d'un vaccin testé en Thaïlande, oui. Qui était associé à environ 30% de réduction de l'infection. Donc, premier signal qu'un vaccin pouvait protéger.
Oui.
Et les travaux effectués dans les 3-4 dernières années pour essayer de comprendre, on était dans une boîte noire. Il y avait un vaccin qui avait été fait, une observation du nombre d'infections, et puis après, il fallait comprendre. Les travaux et l'organisation des travaux au niveau mondial, et ça, cela montre aussi l'interaction de l'ensemble des équipes, dans les 3-4 dernières années, ont vraiment, vraiment avancé de manière significative sur quels sont les mécanismes de protection qui ont été induits par ces vaccins. Et aujourd'hui, on comprend parfaitement les personnes qui ont été vaccinées et qui ne se sont pas infectées, qu'est-ce qu'elles ont développé comme type de réponse immunitaire par rapport aux vaccinés infectés et par rapport aux personnes qui n'avaient pas reçu de vaccin. Donc on approche de plus en plus dans la dissection des mécanismes que l'on doit induire avec un vaccin. Alors la question maintenant...
Ça, c'est encore le temps de la recherche.
Ça, c'est complètement le temps de la recherche. Et donc les questions maintenant sont celles des nouveaux essais avec de nouvelles stratégies pour mimer cela. Un vaccin, ça n'est que mimer ce qui peut se passer dans la nature qui nous protégerait contre une infection. Et des différentes stratégies sont en cours aux États-Unis, la suite de ces vaccins thaïlandais, entre guillemets, mais aussi en France, avec de nouvelles stratégies qui modulent le système immunitaire pour lui faire faire un peu ce qu'on veut, éduquer le système immunitaire pour faire les bonnes réponses pour bloquer. Parce que maintenant, on a une idée des réponses qu'il faudrait induire. Donc ça, c'est une première piste importante. Et la deuxième, les deuxièmes travaux, peut-être depuis les années 2011-2012, c'est comment se met en place des défenses naturelles contre le virus. Parce que nous avons des défenses naturelles contre ce virus, que le virus a appris pendant des millions d'années à détourner quand il était dans son milieu naturel chez le singe et ensuite quand il est passé chez l'homme, et qui font qu'elles ne marchent pas chez la majorité des gens.
Ouais. Et elle marche chez quelques personnes. Et ça, c'est l'objet d'études justement intéressantes, puisqu'il y a des cas où les personnes porteuses du virus contrôlent donc spontanément l'infection. Vous avez publié avec Didier Raoult très récemment une étude sur le sujet. Qu'est-ce qu'on sait chez ces personnes? Pourquoi est-ce qu'elles arrivent précisément, même en étant séropositives, à ne pas développer les symptômes du sida?
Alors, si vous voulez, on connaissait depuis quelques années à peu près moins de 1%, 0,8% de sujets infectés qui n'avaient pas de virus qui se multipliait. Et donc il y avait plusieurs hypothèses. Est-ce que le virus ne fonctionne pas? Ce qui n'est pas le cas. Quand on stimule leurs cellules, on sort un virus. Et par contre, on s'oriente vers une défense immunitaire, des défenses immunitaires particulières qui permettent de contrôler le virus. Oui. Les cas auxquels vous faites allusion, c'est au sein de cette population, il y a peut-être des populations qui ont été plus loin que simplement contrôler le virus par les réponses immunitaires. Ce qu'on a mis en évidence en clair, c'est que chez deux patients infectés, l'un depuis 30 ans, l'autre plus récemment, quand on essaye de stimuler le virus, il ne ressort pas des cellules. Et quand on essaye de voir les séquences génétiques de ce virus, il est complètement, si vous voulez, éclaté et devenu inactivé par un mécanisme naturel. Alors, qui a sûrement fonctionné de manière très importante.
Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est quoi ce mécanisme? Alors,
l'hypothèse que l'on a aujourd'hui, c'est que le mécanisme naturel dont je parlais, qui fonctionne habituellement et qui est contrecarré par le virus, eh bien, chez ces patients, a sûrement marché à plein et que le virus n'a peut-être pas été capable de contrecarrer, ou alors il a marché à fond. Et donc ce qu'il a fait, qu'il a mis que ce qu'on appelle des codons stop, c'est-à-dire il a stoppé toute production de ce virus à beaucoup d'endroits des gènes du virus. Oui. Donc on retrouve le virus dans les gènes intégrés. Mais ce virus est incapable de refaire un virus normal quand les gènes s'expriment de ce virus, comme chez une personne infectée.
Donc ça, pour un chercheur, ce sont des cas extrêmement intéressants. Parce que si on comprend bien le mécanisme et les raisons pour lesquelles ce mécanisme entre en marche, on peut évidemment imaginer des thérapies
futures. Je pense qu'il faut rester très prudent. On est vraiment dans une observation. On a eu la chance de tomber dessus. Elle a été par des techniques nouvelles de séquençage mises en évidence. Oui. Maintenant, est-ce qu'on saura le reproduire ou est-ce qu'il y a plus de personnes? Il faut d'abord le confirmer. Et il faut parler d'inactivation du virus particulière, sûrement pas de guérison comme certains l'ont extrapolé, sûrement pas, mais le virus ne se produit pas, n'est pas produit chez ces personnes et vraisemblablement par un mécanisme intéressant à découvrir.
Ouais. Emmanuel Trenado, est-ce que vous croisez des personnes qui ont des rapports à risque, qui ne prennent aucune précaution et qui sont séronégatives et qui ne développent pas justement de maladie ou qui n'attrapent pas le virus?
Les différentes enquêtes sur comportement des personnes montrent qu'il y a généralement une baisse de l'utilisation systématique des préservatifs, que ce soit toute population. Et ça, on le mesure depuis 2007. Donc ça, c'est la nouvelle génération se protège moins que l'ancienne.
Ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle, évidemment.
Non. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais en même temps, il faut partir des personnes et de leurs pratiques pour essayer de travailler avec elles et leur donner toutes les options pour se protéger. Concernant les personnes qui seraient naturellement protégées...
Il y a des témoignages. Vraiment des témoignages de personnes qui ont eu des partenaires séropositifs et qui, elles, n'ont jamais développé du tout de maladie sans jamais s'être protégées, justement.
La meilleure étude, c'était une étude auprès de... prostituées africaines qui montraient que il y avait
des signaux qu'elles avaient été en présence du virus, mais qu'elles n'avaient jamais
développé une maladie.
Elles n'avaient jamais été infectées par le VIH. Ouais. Et c'est le principe des traitements préventifs, c'est-à-dire qu'on empêche l'installation de l'infection. Et il y a des personnes qui sont capables d'empêcher, au moment du contact avec le virus, d'empêcher le virus de s'installer.
Ouais. Yves Lévy, ça c'est d'autres cas encore.
Oui, ça c'est d'autres cas qui sont connus depuis plus de 15 ans, c'est-à-dire c'est les cohortes dont on parlait Emmanuel, et on a bien montré qu'elles avaient, ces personnes, des réponses immunitaires très fortes, ce qui montre qu'elles avaient été en contact avec le virus, mais le virus même qui se multiplient à un moment, mais qu'elles ont été vraisemblablement capables de le contrôler et peut-être d'éliminer ces cellules résiduelles qui vont au début former ce qu'on appelle le réservoir qui fait que ça augmente de manière exponentielle et qu'on ne peut plus le contrôler après. Donc ceci peut montrer qu'on peut peut-être se protéger contre le virus. La vraie question pour nous, c'est l'objectif d'un vaccin, c'est d'essayer de mimer encore une fois la réponse naturelle, mais comme personne n'a jamais éliminé le virus, il a peut-être contrôlé, mais personne n'a jamais éliminé le virus. D'être sûr qu'un vaccin induit les bonnes réponses capables d'éliminer un virus une fois qu'il est installé est évidemment la question qui reste complètement aujourd'hui non résolue.
Ouais, mais ça reste aussi des pistes de recherche.
C'est évidemment la piste majeure du vaccin. Et du vaccin thérapeutique aussi, qui est un vaccin qui se donne chez des personnes infectées pour mieux contrôler le virus.
Emmanuel Trenado.
Oui, il ne faut pas oublier aussi que quand on parle du vaccin, on intervient et on modifie le système immunitaire. Et il est arrivé aussi des résultats d'un essai négatif qui modifiait le système immunitaire de telle façon qu'il était plus susceptible à l'infection à VIH. Donc on est vraiment dans la phase où on est en train d'apprendre sur les réponses immunitaires et que fabriquer un vaccin, ça reste compliqué.
Olivier nous envoie ce message. Je souhaitais intervenir en tant qu'homme séropositif. Après traitement aux États-Unis, j'ai pu donner naissance à une petite fille qui n'est pas atteinte par le virus, le sperme ayant été lavé. Oui. Yves Lévy, vous voulez préciser ça, s'il vous plaît ?
Oui, c'est aussi une offre que l'on a évidemment en France, dans l'accompagnement des couples dits séro-différents, c'est-à-dire l'un est infecté et pas l'autre, de proposer et de pouvoir, par une procréation médicalement assistée, de promettre et de permettre de mettre en place justement ce projet d'enfant. Ce que l'on fait, c'est que chez un homme infecté, on observe la charge virale, c'est-à-dire la présence du virus au niveau du sperme. On sait que le virus est surtout présent, pas dans les spermatozoïdes, mais plutôt dans les cellules à côté. Oui. Et après évaluer la charge virale, on essaye d'éliminer les cellules qui ne sont pas les spermatozoïdes. Et on utilise ces spermatozoïdes à ce moment-là pour une insémination et donc pour essayer de démarrer une grossesse.
Clara nous demande, est-ce qu'en France, on peut encore aujourd'hui être infecté par le VIH par le biais d'une transfusion sanguine ou ce mode de contamination est-il devenu tout simplement un mauvais souvenir ?
On peut dire que c'est devenu un mauvais souvenir. Ça coûte d'ailleurs à la collectivité 23 millions d'euros pour toute infection empêchée. C'est le prix que l'on paye.
Et puis dernier message de Larry, pardon, mais comment envisager de prendre un traitement préventif contre le VIH si ce n'est qu'en acceptant de s'y exposer ?
Personne ne peut proposer de s'exposer, mais il faut voir, comme le disait Emmanuel, les choses en clair. Il y a aujourd'hui, malgré les préservatifs et les messages, des gens qui s'exposent, puisqu'on a un taux d'infection qui reste constant dans notre pays.
Ouais, c'est donc pour ça qu'Hyper-Gay a pu être mené, d'ailleurs.
Absolument. Hein. Et donc, ce qu'il faut, c'est renouveler le message que le préservatif est le centre de la prévention et qu'on peut l'associer à éventuellement d'autres stratégies comme le traitement pré-exposition et que l'ensemble de tout ça, peut-être que même avec les conseils, diminuera le risque d'infection.
Merci beaucoup à tous les deux. Yves Lévy, donc PDG de l'INSERM, et Emmanuel Trenado, donc directeur adjoint de AIDS, et puis ce livre Sida, 30 ans d'idées reçues aux éditions du Cavalier Bleu. Merci beaucoup à tous les deux. Merci aux auditeurs pour les nombreux messages. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Vida.
De quoi parle-t-on dans Affaires sensibles dans quelques instants, s'il vous plaît ?
De l'affaire Omar Radad, qui se bat aujourd'hui, vous savez qu'il était libéré, il se bat aujourd'hui pour une révision de son procès, pour qu'on le reconnaisse innocent, et il se bat aux côtés de son avocate, Sylvie Noachovitch, qui sera notre invitée.
Et ce sera donc dans quelques minutes après les infos. Merci à Jean-Noël Vélan et Patrick Henry qui étaient aujourd'hui à la technique. Demain, nous parlerons de sociologie de la boxe avec un sociologue qui est monté sur le ring pour s'intéresser et étudier le monde des boxeurs. Ce sera très intéressant, vous verrez. Merci d'écouter La Tête au Carré et surtout France Inter, il est 15h.